Bonsoir. Le gouvernement congolais a pris une série de mesures pour décourager la contrebande minière dans la partie est de la RDC. Le ministre de Mines, Kizito Paka-Pomba, a livré cette information lors d'une conférence de presse mardi 18 février à Kinshasa. Parmi ces mesures, il a indiqué avoir, par exemple, signé un mémorandum d'entente pour l'approvisionnement des minerais critiques au niveau de l'Union européenne. À travers cette démarche, indique le ministre des Mines, la RDC s'engage à assurer la traçabilité des minerais congolais via les moyens économiques et diplomatiques. Il compte notamment s'appuyer sur les mesures de la CIRGL pour l'identification de l'origine des minerais et barrer la route à la commercialisation des minerais venus des zones rouges. Quelle analyse faire des mesures prises par le gouvernement pour décourager la contrebande minière? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 20 février 2025. Participe au débat Franck Kwamba, directeur général de la revue Mining News. Il est fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement, mais aussi coordonnateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Franck Kwamba, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir directeur Radio Capitaine.
Aussi avec nous dans ces débats, Ernest Mpararo, secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO. Il est aussi le point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Ernest Mpararo, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir Franck.
Guy Kajemba est aussi avec nous dans ces débats. Il est expert en changement climatique et réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Il s'intéresse aux minerais comme un pilier de la déforestation. Guy Kajemba, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir.
À Bounia, dans la province de l'Ituri, vous nous suivez sous la 104.9 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur l'ISTV canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, le gouvernement congolais a pris une série de mesures pour décourager la contrebande minière dans la partie est de la RDC. Le ministre de Mines a livré cette information lors du briefing des presse tenu mardi avec son collègue de la communication et médias ici à Kinshasa. Il a indiqué avoir par exemple signé un mémorandum d'entente pour l'approvisionnement des minerais critiques au niveau de l'Union européenne. Les détails avec vous, Blaise Ndongala.
À travers cette démarche, indique le ministre des Mines, la RDC s'engage à assurer la traçabilité des minerais congolais via les moyens économiques et diplomatiques. Il compte notamment s'appuyer sur les mesures de la CIRGL pour l'identification de l'origine des minerais afin de barrer la route à la commercialisation des minerais venus des zones rouges. Kizito Paka-Pomba.
Et dans le cadre de la CIRGL, par exemple, et on peut demander à tout moment de vérifier, de faire des audits et des enquêtes pour nous assurer que ces minerais viennent bien de ce pays dans le cas d'espèce. Il y a toute cette mobilisation diplomatique auprès des États dont lesquels ces entreprises achètent pour pouvoir pointer, que ce soit dans le cadre des directives de l'OCDE.
Dans ces cadres, le gouvernement a initié des partenariats stratégiques, notamment avec la compagnie DRC Gold Trading, afin de maximiser la captation des ressources issues de l'exploitation aurifère et d'en garantir une exploitation responsable et bénéfique pour le pays. Le ministre Kizito a par ailleurs mentionné avoir signé le 12 février courant un arrêté identifiant les zones rouges. Ceci permet à la RDC, dans le cadre des accords, d'assurer que les minerais sont issus des zones de conflit et ne répondent pas à la diligence raisonnable.
Merci Blaise Ndongala pour ce reportage. Franck Fomba, je rappelle que vous êtes directeur général de la revue Mining News, fondateur de l'ONG Ressources naturel pour le développement, mais également coordonnateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Vous avez suivi dans ce reportage, hein, de Blaise Ndongala, le gouvernement congolais qui a pris une série de mesures pour décourager la contrebande minière dans la partie est de la RDC, surtout cette partie occupée aujourd'hui par la rébellion du M23. Vous vous intéressez trop, Franck Famba, aux questions minières. Alors, pour commencer, avant d'analyser ces mesures prises par le gouvernement, est-ce que on peut avoir une idée de l'ampleur de la contrebande minière dans la partie est de la RDC à ce jour?
Merci, madame. Il est plus de tout le monde. Alors, de tout.
On vous suit très mal, Franck Famba. Essayez de bouger pour améliorer la ligne téléphonique.
Allô, maintenant, monsieur.
Ça va mieux maintenant.
Ouais. Je dis qu'il est de tout le monde. Vous me suivez?
On vous suit, monsieur Famba.
Oui, il n'y a plus de tout le monde. Nos voisins de l'Est.
Allô?
Principalement. Le Rwanda et l'Ouganda. La plupart des Américains.
Est-ce que, Franck Famba, on a du mal à vous suivre en sortant très coupé. Est-ce que vous avez mis main libre?
Là, vous me suivez?
Oui, on vous suit.
Oui, madame. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un retour. Bon. Je disais ceci. Toute la société civile congolaise, la société civile africaine, a toujours lancé un cri d'alarme lors des conférences de l'OCDE à Paris depuis longtemps pour que les pays de l'Est cessent de frauder les minéraux de la RDC et les vendre en leur nom, principalement nos voisins rwandais et ougandais. Si on veut connaître l'ampleur, on n'a qu'à prendre les statistiques des minéraux vendus par le Rwanda et par l'Ouganda, principalement de l'or, de la cassiterite, du coltan, de l'ulframite, et on va se rendre compte de ce qui a été pillé à la RDC. Ça veut dire que c'est un processus où des choses qui ont eu lieu en complicité avec les acheteurs, qui sont les utilisateurs, qui sont les pays occidentaux et les utilisateurs finaux, qui ne sont pas regardants. La société civile, la plupart du temps, ne condamne pas toujours les pays de l'Est, mais condamne plutôt les multinationales occidentales qui sont hypocrites, qui ne respectent pas les principes de l'OCDE et qui n'avaient pas respecté à l'époque la loi Dodd-Frank, par exemple, pour qu'il n'y ait plus de violence à l'Est. Parce que tout le monde sait dans quelles conditions les minéraux de l'Est, la RDC, sont pillés. Vous êtes rendu compte, par exemple, madame, où vous allez vous rendre compte que quand l'Union européenne avait pris des mesures contre une fonderie d'or qui était en Ouganda, les problèmes financiers sérieux se sont posés en Ouganda. Et avec les mesures qui viennent d'être prises, déjà ce matin, je lisais que la bourse des valeurs au Rwanda est en train de connaître un problème très sérieux. Donc, ça sont les paramètres, les signes qui indique l'ampleur de la quantité ou du volume ou des dégâts qui ont été commis sur la RDC par nos deux voisins de l'Est qui vivent de nos minéraux et qui font tout ce qu'ils sont en train de faire pour ça.
Le gouvernement congolais intensifie ses efforts pour freiner la contrebande minière dans l'est de la RDC. C'est ce que a dit le ministre des Mines, Kizito Pakiapumba. Il en a profité pour annoncer une série de mesures visant à garantir la traçabilité des minerais congolais, à lutter contre leur exploitation illégale. L'une des initiatives phares est la signature de ce mémorandum d'entente avec l'Union européenne pour l'approvisionnement en minerais critiques. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure, par exemple, Franck Tumba?
Cette mesure, elle est bonne, mais n'est pas première. Elle est bonne, elle n'est pas première parce que l'Union européenne, c'est un conglomérat des hypocrites. C'est comme ça qu'il faut les appeler. On a vu ce qui est en train de se passer, les débats à l'Union européenne sur ce qui se passe à l'Est à propos des minéraux. Il y a des pays comme la Belgique, il y a des pays comme l'Allemagne et les autres qui ont laissé le temps. Mais on a vu comment le commissaire ou la commissaire qui a dit que voilà, on va voir tout ça là. Ça veut dire que l'Union, comme on dit, l'Union européenne, ce sont des hypocrites. Les mesures sont signées, les accords sont signés. Maintenant, il faut qu'on les applique. Est-ce qu'il fallait attendre aujourd'hui pour les signer? Pourquoi est-ce que l'Union européenne, par exemple, a eu le courage de signer des accords avec le Rwanda pour des minéraux critiques que le Rwanda n'a pas? Ça dit, l'Union européenne a entretenu la situation floue qui se passe à l'Est. Elle devait être tenue civilement et pénalement responsable de tous les dégâts matériels et humains qui se passent à l'Est. Parce qu'en principe, l'Union européenne a voulu avoir des matières premières, des minéraux critiques de la RDC, sans venir investir en RDC. Et on leur dit toujours, venez investir en RDC, il y a de la place tout le monde. Si l'Union européenne avait encouragé ces sociétés à investir à l'Est, comme Alphamin l'a fait, Alphamin, il y a les intérêts américains, comme Barrick a fait, les intérêts canadiens sud-africains, comme ils l'ont fait dans le haut où il est, aujourd'hui peut-être on ne connaîtrait pas ce qu'on a connu à l'Est. Le gouvernement congolais a toujours été de bonne volonté, mais l'Union européenne s'est toujours comportée comme des bandits, des escrocs, ne respectant pas leurs propres principes qu'ils émettent dans les principes de l'OCDE. Espérons que cette fois-ci, avec tout ce qui se passe à l'Est et les sanctions que les Américains sont en train de prendre contre certaines personnes, les choses vont changer. En principe, les pays comme le Rwanda, comme l'Ouganda et la RDC, ils peuvent vivre en paix. Comme ça s'est fait du côté, par exemple, du Ouélé, de l'Ituri, avec Ibali Goldmine, qui profite à tout le monde. Et on pense que Alphamin avec Bissigué profite à tout le monde. Ça veut dire que si les Européens décidaient de ne pas être des resteleurs, mais d'être des investisseurs qui viennent investir pour développer en respectant leurs propres principes sur les droits humains, sur la traçabilité, aujourd'hui, la RDC ne serait pas en train de signer avec un accord, alors que ce sont des choses qui devaient se faire automatiquement. Qu'ils cessent d'être des hypocrites, qu'ils cessent d'être des malhonnêtes, qu'ils cessent d'être des escrocs sur les questions des minéraux critiques, qu'ils soient sérieux et se respectent, qu'ils viennent prendre les minéraux à la source.
Cette émission est aussi pédagogique. Il y a un auditeur, Samy, qui demande qu'est-ce qu'on entend par minéraux critiques, Franck Fouamba. Comment vous le répondez?
Les minéraux critiques sont les minéraux, ça dépend. Chez nous, on les appelle par exemple les minéraux stratégiques. Les minéraux critiques sont les minéraux qui sont définis par différents pays comme les minéraux contribuant à leur économie, à leur technologie, à la politique de l'emploi. Quand on parle des minéraux critiques, généralement, il n'y a pas les États-Unis ont leur liste, l'Union européenne ont la leur, la Chine ont la leur. Mais dans les minéraux critiques, principalement, nous trouvons le coltan, nous trouvons le wolframite, nous trouvons, ça dépend du pays, il y a de l'or, nous trouvons le cobalt, nous trouvons le cuivre, nous trouvons le fer, nous trouvons le zinc. Donc ces minéraux qui soutiennent les industries, les différentes sortes d'industries, en Chine, au Japon, en Corée, aux États-Unis, et en Europe, selon les besoins de chaque bloc. Il n'y a pas une liste fixe, mais au moins les minéraux que j'ai cités là, pratiquement tous les minéraux que nous avons en RDC font partie des minéraux critiques.
Alors, il y a un auditeur qui nous suit depuis la commune de Ngaliema, qui dit ne pas être d'accord avec vous, Franck Toumba. Il dit que l'Union européenne n'est pas le premier acheteur le premier acheteur de l'or venant du Rwanda. Ce sont plutôt les Émirats arabes unis.
C'est ce qu'il peut dire. Mais je donne un exemple. J'ai dit que quand l'Union européenne a pris les sanctions sur la fonderie qui était tenue par un Européen en Ouganda, on a vu ce qui est arrivé. Les Émirats arabes unis prennent, ils prennent de l'or, il y a d'autres pays. Ils prennent parce que l'Union européenne ne sait pas faire appliquer ses propres principes sur la diligence raisonnable. Je comprends le concitoyen qui a posé la question. Il ne connaît pas les principes de diligence responsable desquels, effectivement, sont les principes de traçabilité dont on pourra parler après. Ça veut dire que celui qui achète, quand les Émirats Arabes Unis achètent, c'est pourquoi? C'est pour fabriquer les bijoux, c'est pour fabriquer beaucoup de choses. Qui achète ces choses-là? C'est ceux-là qu'on appelle les utilisateurs finaux. La plupart du temps, ce sont les Occidentaux qui vont les prendre. Et c'est connu que les Émirats Arabes Unis, c'est un des marchés du monde.
Merci.
Et il y a aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, il y a beaucoup d'Occidentaux, beaucoup d'entreprises occidentales, des intérêts qui sont là. Si les Occidentaux, l'Union Européenne, respectent ses propres mesures, ses propres principes, dont les principes de l'OCDE, qui vont du Canada en Australie, les Émirats Arabes Unis vont se retrouver avec la corde au cou, ne vont pas faire n'importe quoi sur ce qui se passe sur l'ordre de l'Est.
On vous garde encore dans cette émission en froc. Ernest Mpararo, vous êtes secrétaire exécutif de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption, l'ICOCO. Vous êtes aussi le point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Comment vous analysez ces mesures prises par le gouvernement congolais pour décourager la contrebande minière dans la partie est de la RDC?
Oui, merci beaucoup, madame. C'est une première décision que nous encourageons, mais est-ce que cette décision est vraiment satisfaisante? Je ne le pense pas. Et le Rwanda ou les pays voisins, particulièrement le Rwanda, est-ce que le Rwanda c'est le pays final où le coltan ou le 3T est destiné? Je ne le pense pas. Et comme vous le savez, la LICOCO venait de publier un document accusant certaines sociétés basées en Europe d'acheter des minerais effectivement provenant de Massissi. Et lorsque nous avions publié, il y a eu des réactions et des réactions, mais cela n'était pas suffisant parce que lorsque vous suivez très très bien toutes les initiatives de certification, la plupart de nos minerais 3T vont en Chine et dans les pays asiatiques de l'Asie du Sud-Est. Et je pense que le gouvernement devrait, à part le fait de suspendre ou de certifier les sites d'être des sites rouges, il devrait prendre contact avec les ambassades de la Chine, les ambassades de Corée du Sud, du Japon, tous ces pays dont, qui achètent à partir du Rwanda et leur dire, écoutez, ce sont des minéraux qui viennent de la RDC, vous devez interdire à vos sociétés d'aller acheter là-bas parce que ce sont des minéraux qui proviennent des aires où il y a des conflits énormes. Et cela peut effectivement avoir un impact sur l'économie rwandaise et cela peut avoir un impact sur toutes les rébellions et tous les groupes armés qui pilulent à l'est de la RDC et particulièrement actuellement les M23. Nous pensons que c'est une première décision qui est satisfaisante, mais ce n'est pas une fin en soi. On doit aller plus loin pour effectivement demander aux pays qui consomment, les pays consommateurs finaux, d'interdire leur société de venir acheter à partir du Rwanda et des pays voisins.
Merci Ernest Mpararo. Guy Kajemba, expert en changement climatique et réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Vous intéressez aux minerais comme un des piliers de l'afforestation. Une certaine opinion estime qu'il sera difficile pour le gouvernement, malgré ses mesures, de s'assurer de la traçabilité des minerais et garantir qu'ils ne proviennent pas de zones de conflit. En tenant compte surtout des réalités du terrain.
Merci beaucoup, Kéline. Nous sommes vraiment.
On vous suit très mal, Guy Kajemba. Voilà. Essayez de bouger ou encore si vous avez activé le mode main libre, essayez de les désactiver. Voilà,
d'accord. Alors, je disais que, en principe, le vrai problème se pose dans ce type. C'est que les mines, quand il y a l'exploitation illégale des mines, il y a pas de réglementation pour le respect de l'environnement. Et ça pose un problème parce que partout où on exploite les mines dans les désordres là, on ne tient pas compte de tout ce qu'il y a comme protection de l'environnement, notamment la reforestation et le reste. Alors, mais aussi, je devais revenir sur la responsabilité de la RDC. Parce que, en fait, la RDC a beaucoup de responsabilité du fait qu'elle devait aussi travailler pour la réglementation comme l'EITI, de façon à ce qu'il puisse avoir clairement les données. Les données géochimiques de tout ce qu'on a comme minerai et de faire le lobbying pour qu'il soit sécurisé jusqu'au destinataire final. Et nous, au niveau de l'aspect civil GTCRR, nous insistons parce que c'est un grand pilier, c'est un pilier important qui essaie un peu même d'énerver les engagements internationaux de la République par rapport à la lutte contre le changement climatique et la déforestation. Voilà.
Alors, Guy Kajemba, vous avez suivi les mesures prises par le gouvernement. Il y a ce mémorandum d'entente pour l'approvisionnement des minerais critiques au niveau de l'Union européenne. Le gouvernement estime qu'à travers cette démarche, la RDC s'engage à s'assurer de la traçabilité des minerais congolais via les moyens économiques et diplomatiques. Ernest Pararo estime que c'est déjà bien de prendre ce genre de mesures, mais cela ne suffit pas. Il faut aller plus loin.
Il faut aller plus loin, c'est effectivement pas dans les déclarations politiques, mais permettre aussi aux acteurs de la société civile de suivre, de documenter et d'être écoutés par rapport aux informations qu'on reçoit chaque fois qu'il y a des alertes à ce niveau-là. Et c'est très important parce qu'il y a un problème de surveillance et de contrôle, il y a un problème de respect des réglementations internationales, et il y a un problème de traçabilité et de marqueurs géochimiques. Et ces trois éléments doivent faire partie d'un travail que la société civile doit faire pour s'assurer que tout le monde est en train de respecter. Et là, j'insiste aussi sur le fait que l'Union européenne, c'est un. Les autres, que ce soit les Rwanda, les Émirats arabes unis, la Chine et les autres, c'est finalement des intermédiaires. Les acteurs finaux, c'est pratiquement l'Union européenne et les États-Unis parce que c'est.
On a du mal. On a du mal à vous suivre, Guy Kajemba. La réalisation va essayer de vous rappeler. On va ouvrir le standard pour prendre ces auditeurs qui nous appellent, qui veulent aussi intervenir pour donner leurs avis sur le sujet de ce soir. On va aller à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, pour écouter cet auditeur.
Jean Jado Igilima, je vous appelle à partir de Bukavu, en province du Sud Kivu. Décourager la contrebande minière dans la partie est du pays ne passe pas par la prise d'une série de mesures, car une chose est de prendre les mesures et une autre est de les faire respecter. Le mémorandum d'entente signé pour l'approvisionnement des minéraux critiques ne va pas assurer la traçabilité des minéraux congolais comme le prétend bien le ministre des Mines. Ceci car les mesures de la CIRGL sur lesquelles il s'appuie ne sont pas de nature à lui faciliter la tâche au vu de la guerre qui se vit dans la partie est du pays. Il est naïf de penser que les minéraux y exploités seront identifiés comme issus des zones rouges, alors qu'on en a seulement besoin, quelles qu'en soient les origines. C'est pourquoi compter sur ces mesures pour décourager la contrebande minière, c'est comme compter sur les organisations internationales pour mettre fin à cette guerre que nous sommes en train de vivre. Merci.
Franck Fomba, comment vous réagissez au point de vue de Jado qui vous appelait depuis Bukavu sur Kivu?
Je comprends bien le point de notre concitoyen, mais il faut comprendre que nous sommes dans un environnement où il y a une législation qui existe, qui a été établie, les mécanismes qui ont été établis au niveau mondial la production des minerais. Oui.
On a... La connexion n'est pas bonne, François Mba.
Ouais. Je disais que je comprends. Je comprends ce que notre confrère dit, ce que nos concitoyens disent. C'est parce que il s'est rendu compte que malgré les mesures de la CIRGEL, le mécanisme et autres, il y a toujours contrebande de minerais qui sortent vers l'Est, qui partent. Comme M. Gadjemba venait de le dire, mais Ernest Npararo, nous sommes dans un environnement où nous évoluons en vase communicant. Ça veut dire que les mesures de la CIRGEL et les principes de l'OCDE, les mécanismes qui ont été mis en place, aujourd'hui avec la Chine, il y a la RMI. Ils ont les principes, ils ont accepté d'adhérer à la traçabilité pour vérifier que les minerais doivent être identifiés de la source jusqu'à l'utilisateur final. Nous ne devons pas négliger les mesures qui sont prises. Au contraire, c'est une façon par le gouvernement congolais de responsabiliser la communauté internationale, de responsabiliser la sous-région de la CIRGEL et responsabiliser la communauté internationale pour dire voici les mécanismes que nous avions mis en place ensemble, nous les rappelons, que chacun les respecte. Je pense que si tout le monde est sérieux, comme Ernest venait de le dire et comme mon frère Kidjemba venait de le dire, si les utilisateurs finaux, qui sont effectivement à la base de toutes ces mesures, ce sont les Occidentaux, qui sont à la base de toutes ces mesures, s'ils sont sérieux, mon frère qui est à Bukavu se rendra compte qu'il n'y aura pas de contrebande. Parce que comme je venais de le dire, les autres l'ont dit, l'Ouganda et le Rwanda, ce sont comme des machines à laver. Les machines à laver qui appartiennent à des gens, qui appartiennent à des Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui sont là en train d'acheter ou qui viennent chercher du minerai au Rwanda ou en Ouganda, alors qu'ils n'en ont pas. C'est pour ça qu'on appelle ces pays-là de machines à blanchir. Mais les propriétaires de machines à blanchir, ce sont les Occidentaux. Donc, si la contrebande est entretenue, elle est entretenue, non pas par l'État congolais où c'est entretenu, par ceux qui achètent, qui viennent, qui achètent les produits non tracés, les produits qui ne respectent pas au principe de la CIRGEL, au principe et mesure de la CIRGEL et au principe de l'OCDE. Donc, que notre concitoyen soit rassuré que ces mesures sont très importantes, le gouvernement congolais vient de mettre le monde entier, vient de mettre les pays de la sous-région et le monde entier devant leurs responsabilités sur la traçabilité de minerais pour leur dire les minerais que les mesures que vous avez toujours prises ne sont pas respectées sur la RDC. C'est une sorte, comme je dis, de responsabilisation et c'est aussi une sorte de dénonciation tacite pour dire vous avez failli. Voici les mesures qu'il y a, il faut les respecter afin que tout le monde soit à l'aise, afin que tout le monde se retrouve et qu'il y ait la sécurité et qu'il n'y ait pas les minerais non tracés qui sont à la base des conflits, des sources dans notre sous-région.
Après Bukavu, on va se rendre à Kamanga, dans la province du Kasaï central, pour écouter cet autre auditeur qui nous appelle.
Ok, c'est Nové Kawanga depuis Kamanga au Kasaï central. Nous saluons en fait les efforts du gouvernement congolais dans la lutte de la corruption et contrebande de minerais congolais dans les zones occupées par le RDF M23 sur le chiquier international. Cependant, nous nous inquiétons un peu de l'applicabilité de ces mesures parce que nous avons vu que la communauté internationale est incapable de condamner, bas sanctionner le Rwanda, pays agresseur, même M23, qui sont impliqués dans l'exploitation illicite de nos ressources.
Ernest Pararo, mesures sont bonnes, mais le problème va souffrir d'applicabilité selon cet auditeur qui nous a appelé depuis Kananga.
Oui, effectivement, c'est une réalité qui est là, mais nous pouvons effectivement résoudre cette réalité, effectivement, en allant devant les pays, la plupart, ceux qui n'ont pas une éthique dans les affaires, dont les Chinois, parce qu'au niveau européen, on peut aller devant les cours et tribunaux et nous pouvons gagner des procès. Au niveau, on l'a déjà fait avec Apple et vous avez suivi comment est-ce que Apple a réagi. Donc au niveau européen, au niveau américain, nous pouvons y aller. Mais côté chinois, côté sud-asiatique, c'est là où se trouve le problème, étant donné que les tribunaux ne sont pas indépendants. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce moment-là? Je pense que diplomatiquement, avec les pourparlers bilatéraux, avec tous ces États-là, pour leur dire, écoutez, voici nos sites, nous voudrions et nommer les sociétés qui achètent directement au Rwanda, nous les connaissons, ils sont dans plusieurs initiatives qui se trouvent à l'Internet. Je pense que si nous y amenons, nous y allons diplomatiquement, concentrer nos efforts sur ces pays de la Chine, de l'Asie du Sud, de Singapour, de Corée du Sud, du Japon, on peut effectivement arriver à sensibiliser ces États et ces États peuvent interdire leur société d'acheter au Rwanda. Mais je reviens encore notre collègue du Sud Kivu, et il a tellement raison, vous aviez suivi aujourd'hui, le département d'État venait de sanctionner Kanyuki Lorrain, qui a la nationalité britannique, nous devons y aller, même devant les cours et tribunaux britanniques, devant les cours et tribunaux français, pour effectivement sanctionner et suspendre ou résilier ou supprimer cette société criminelle de Laurence Kanyuki, qui est la nationalité britannique,
Kanyuka.
Et demander des réparations. Kanyuka, oui. Et demander des réparations. Les citoyens qui nous suivent à l'Est doivent comprendre que nous compatissons avec eux, nous sommes de cœur avec eux, mais ces gens-là du M23, les Nanga, les Sultans, ce sont des criminels. Nanga a volé les machines à voter ici. Vous vous souvenez, non? En 2018, il s'est enrichi avec les machines à voter. Aujourd'hui, il revient, il veut nous dire qu'il devient libérateur. Ça, c'est jouer avec les gens. Sultan Makenga, Bissimwa Bertrand, tous ces mondes-là, ils ont tué des gens en 2012, ils ont tué des gens en 2013, vous vous souvenez, ils ont été sanctionnés par l'Union Européenne, sanctionnés par les Américains, mais aujourd'hui, ils sont en train de montrer aux gens à l'Est que non, ce sont des grands libérateurs. Je pense que nos amis, nos frères, nos sœurs qui sont à l'Est, vous devez vous méfier de ces criminels-là. Nanga n'a pas de leçons à donner en matière de gouvernance, il n'en a pas, il en a prouvé. Ici à la CENI, sur les 3 ans qu'il a fait, je pense qu'il a détourné des millions et des millions. Il s'est accaparé.
Ernest Pararo, alors il y a un auditeur qui nous écrit depuis la ville de Goma au nord Kivu qui pense que ces mesures auront des conséquences sur les populations locales qui vivent de l'exploitation minière artisanale.
Effectivement, nous savons que les populations pourraient en avoir, mais c'est ça le prix de la liberté, c'est ça le prix de la paix. Nous ne devons pas effectivement favoriser à ce que ceux qui nous agressent, ceux qui violent, ceux qui pillent nos minéraux puissent avoir de l'argent à continuer à piller. Vous savez quel est le chemin. Donc les gens vendent au Rwanda, les Rwandais vendent aux Chinois et aux Européens, et l'argent que les Rwandais mobilisent, ils achètent des armes pour donner au M23. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que les amis, les frères et les sœurs, nous n'avons pas d'autre choix que de prendre ce genre de mesures, parce que ce sont des mesures qui seront sanitaires dans les temps. Et d'ailleurs, nous pouvons demander aux amis de passer par les routes comme Uvira et aller en Tanzanie au lieu d'aller au Rwanda. Parce que c'est très coûteux, effectivement, mais nous ne devons pas permettre à ce que nous puissions donner à des États criminels, à des États voyous comme les Rwanda, comme Kagame, les moyens encore de venir nous combattre et tuer nos frères et sœurs.
Alors, pensez-vous, Ernest Pararo, que les mesures prises par le gouvernement vont encourager les investissements dans les secteurs miniers légaux et responsables?
Effectivement, dès qu'il y a la paix, on peut maintenant changer la donne en réduisant, en travaillant à l'interne. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait la fraude? C'est parce qu'il y a beaucoup de taxes. Et lorsque quelqu'un a payé beaucoup de taxes, il a tendance à frauder. Donc il faut assainir le secteur. Nous l'avions dit toujours, nous l'avions dit depuis des années et des années. Nous l'avions dit, écoute, ailleurs, vous venez avec votre or, on vous vend directement dans un comptoir et le comptoir exporte directement. C'est très simple. Si nous assainissons les climats d'affaires, si nous assainissons les taxes qui sont extra, qui minent les climats des affaires, je pense que les investisseurs peuvent venir. Et si nous rétablissons la paix, je pense qu'ils peuvent venir directement négocier avec nous et ils peuvent investir chez nous. Nous avions vu avec la société canadienne qui est basée au nord Kivu. Je pense qu'ils peuvent venir et ils peuvent investir comme tous les autres, comme ils investissent dans les cuivres et coban.
Guy Kajemba, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne. Merci.
Alors, on va écouter cet auditeur. Hein. On va écouter très rapidement cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo. Puis on revient. On vous revient.
J'appelle à partir de Kisangani, M. Blaise Saïdi Atoubi. C'est une mesure trop salitaire. C'est une mesure à féliciter. Néanmoins, ce qu'il faut noter, les mobiles de la prise de cette mesure à ce temps. Pourquoi cette mesure est venue en retard? Quels sont les minéraux qu'ils sont interdits? Comment accompagner cette mesure prise par le gouvernement congolais pour décourager cette contrebande minière?
Alors, comment accompagner cette mesure prise par le gouvernement pour décourager cette contrebande minière dont parle le gouvernement congolais? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, merci beaucoup. Je crois que j'ai suivi tous les co-débatteurs. On a essayé un peu de tout concentrer sur l'Est. Mais le problème de minerais stratégiques, c'est toute la République. Et nous continuons à insister sur le fait qu'on doit toujours tenir compte du fait qu'il y a des communautés dans ces espaces-là. Et alors, nous pensons que le grand défi, parce que quand on parle de l'Union européenne et de l'Europe, il y a des calculs d'intérêt. Il y a des versatilités, il y a des décisions qu'on prend le matin, après des politiques qu'on ne respecte pas. En tant que les Rwandais et les autres sont toujours d'être soutenus et appuyés par ces mêmes minéraux européens. Nous pensons que nous avons un défi. Le défi, c'est au niveau d'abord interne, de travailler à l'interne. À l'interne, avec, comme je disais, la société civile, pour continuer à documenter et faire les plaidoyers. De manière à ce qu'on ait suffisamment de données qui nous permettent un peu de nous dire qu'est-ce qu'on importe. Parce que tout ça, c'est la théorie. On dit que le Rwanda exporte. Il exporte combien? On prend quoi, où et comment? Et après, nous pensons aussi qu'il y a des défis internes. Les défis internes, ça concerne beaucoup plus la question de la corruption. Parce que quand vous parlez des espaces miniers là, vous allez trouver d'autres, c'est pas moi, hommes politiques qui ont ces espaces là. Et tout ça fait partie des problèmes de conflit. Comment expliquer que bon, un homme politique peut se retrouver avec un carré minier quelque part et que les autres en parlent, on commence à parler des autres, on ne parle pas d'eux. Et donc nous avons des défis au niveau interne. Où on doit avoir une gouvernance qui permet à tout le monde de comprendre que ces minéraux stratégiques doivent être bénéfiques à toute la population.
Votre connexion.
Que les environs de tous ces minéraux.
Votre connexion.
Ont des droits qu'on doit protéger.
N'est pas très bonne, Guy. Kajemba, il y a Nicolas Jedidia Kabuya qui pense qu'il est difficile que les pays qui s'approvisionnent des minerais de l'Est puissent cesser cette méthode parce que c'est à leur avantage de s'enrichir avec des minerais achetés à moindre coût. Franck Wamba.
Madame et notre concitoyen de l'Est, comme nous avons dit, le grand problème ne sont pas nécessairement les pays de l'Est, mais les pays dont les citoyens sont les utilisateurs finaux. Dieu l'avait dit clairement, l'Ouganda, le Rwanda, la Chine et les autres, ce sont les sous-traitants, les intermédiaires de l'Occident, de l'Europe, du Canada, des États-Unis. Les mesures qui sont prises peuvent bien porter leurs fruits, avoir les résultats, mais comme nous l'avons dit, les autres doivent jouer franc jeu. La deuxième chose, en interne, nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux, travailler sur la gouvernance minière et veiller que tout le monde la respecte et établir le principe de la sanction. C'est ce que Guy disait, c'est ce que Ernest disait en d'autres termes. Donc, on doit travailler et en amont et en aval. Nous sommes en train de faire pression sur la communauté internationale, mais nous devons aussi faire pression sur les élites internes qui entretiennent cette contrebande. Je n'invente rien, retournons au rapport sur le pillage le rapport des Nations Unies, le panel des Nations Unies sur les pillages des ressources naturelles en RDC. Il doit doter de 2001 ou de 2002. Le rapport dit clair. Prenons encore le rapport Lutundula, qui n'a jamais été publié. Un rapport de 2006, pendant que Lutundula avait dirigé une commission parlementaire sur les différents contrats qui ont été signés pendant une période en RDC. Olivier Kamitat était président du Parlement de transition. Mais il y a les mesures, il y a les propositions qui sont données et pour s'en sortir. Soyons seulement sérieux en interne, appliquons cela et mettons fin à l'impunité. Le gouvernement a annoncé la création d'un tribunal financier. Qu'est-ce qui manque pour créer ce tribunal-là? Il sera créé quand? Il y a les rapports de l'IGF. Il y a les rapports des ONG qui ont dénoncé les choses terribles et à l'intérieur du pays et à l'est du pays, dans les secteurs des mines, des ressources naturelles. Pourquoi est-ce qu'il y a impunité? Donc, nous faisons pression sur la communauté internationale. Nous faisons pression sur les voisins de l'Est. C'est normal, c'est de la pression diplomatique. Et comme les amis ont dit, le mauvais partenaire de la RDC aujourd'hui, c'est la Chine. La Chine a nos grandes mines qui lui ont été données, qui ont des pas le pays normalement, mais la Chine est aussi, c'est un mauvais acteur, un mauvais partenaire qui entretient la fraude. Parce que à part le Rwanda ou l'Ouganda, vous avez vu au sud Kivu combien de Chinois ont été arrêtés pour la fraude dans l'or. Ils sont partout, les Chinois en train de frauder, ils sont partout. Donc, ils compliquent la vie à la RDC alors que la RDC a tout donné.
Merci.
Le gouvernement devra considérer à revoir sa position envers la Chine, à revoir certains contrats avec la Chine, afin que la Chine comprenne que son argent ne peut pas être utilisé pour déstabiliser la RDC.
On vous a suivi, Franck Fambar, on va vous donner la parole pour la conclusion. On va vous donner la parole pour la conclusion. Ernest Ompararo, il y a Bertrand Moulindoua qui nous suit sur la page Facebook de Radio Capi. Il dit ceci, nous encourageons cette prise des mesures, mais la question que je m'en vais poser aux intervenants, est de savoir quel est l'impact socio-économique des minerais qui sont tracés et vendus légalement au niveau du pays, si ce n'est qu'enrichir une minorité au détriment de la majorité.
Effectivement, les compatriotes ont raison, étant donné que, comme les autres venaient de le dire, la mauvaise gouvernance, la répartition inégale des revenus nationaux, frustre certaines personnes jusqu'à ce que d'autres personnes, effectivement, recourent parfois à la violence pour exprimer leur désarroi. Et je pense que c'est une lutte que nous menons depuis très longtemps pour améliorer la répartition des richesses nationales. Mais cela n'a pas encore eu des effets escomptés. Mais cela n'empêche, lorsque nous sommes agressés, lorsqu'il y a un agresseur venant de l'extérieur, nous ne devons pas l'accepter parce que nous avons une répartition inégale. Nous ne pouvons pas l'accepter. C'est comme s'il y a un voleur qui entre dans ta maison et vous dites, écoutez, comme le papa vit à une heure, c'est comme ça que le voleur est venu. Non, on boute d'abord le voleur dehors et après on va dire au papa, mais vous voyez, c'est parce que vous dormez, vous venez en retard, c'est pour cela que le voleur est arrivé. Donc, moi, jusqu'à preuve du contraire, je suis en train de dire que l'exploitation est faite par les compatriotes congolais qui s'aperçoivent maintenant, aujourd'hui, dire, écoutez, moi, je ne peux plus commencer à exporter via des Rwandais, parce que vous donnez de l'argent aux Rwandais, les Rwandais donnent des armes au M23, et le M23 vient tuer les Congolais. Est-ce qu'un homme conscient, un compatriote conscient peut faire cela? Je doute fort. Donc, je lance un appel à tous les compatriotes qui sont à l'est du Congo, au nord Kivu et au sud Kivu, et dans toute la partie de l'Ituri et le Haut-Uele, d'être des compatriotes et ne plus aller vendre chez les étrangers, étant donné que ces étrangers achètent des armes pour financer des milices, pour financer des groupes armés, et le groupe armé le plus criminel, c'est le M23, pour venir violer, tuer nos frères, faire déplacer des milliers de personnes. Comment est-ce que des gens... Nous pouvons accepter cela, je ne le pense pas. Et moi, je suis d'avis que nous, le gouvernement, effectivement, doit parler avec la Chine, doit dire à la Chine, parce que c'est le plus grand acheteur du coltan de l'or actuellement, à part les Émirats Arabes Unis pour l'or, il y a la Chine aussi. Et le gouvernement, effectivement, je prends position à l'argument de Franck, on doit s'asseoir pour dire, écoutez, vos entreprises sont en train d'acheter via les Rwandais, les Croatais, et les Rwandais achètent des armes pour venir nous tuer. On doit mettre des points sur les i pour voir, écoutez, ils peuvent peser par le secteur cuivre et cobalt pour menacer la Chine. Si vous ne voulez pas, allez, je vous ravis le cuivre et cobalt, je donne aux autres pour effectivement... on puisse effectivement voir comment est-ce qu'on peut nous aider.
Merci.
Je suis d'accord avec cette position-là.
On va considérer cela comme votre conclusion, Ernest Mpararo. Merci. Jackson Kisangani, depuis Goma au Nord Kivu, les mesures prises par le gouvernement congolais sont un pas important vers une exploitation minière plus transparente et responsable. Cependant, leur succès dépendra de leur mise en œuvre rigoureuse, du renforcement des capacités, des contrôles et de la lutte contre la corruption. Il sera aussi crucial d'assurer l'adhésion des acteurs locaux et internationaux pour éviter que la contrebande ne se réorganise sous d'autres formes. Guy Kajemba, nous sommes à la fin de notre émission. Comment assurer une meilleure traçabilité des minerais et une exploitation minière responsable et durable? Ça sera votre conclusion.
Je crois que l'auditeur qui vient de parler a donné une... La guerre du Rwanda va se terminer. Les questions des minerais et la pauvreté sont vraiment une épine dans les plaies dans les pieds des Congolais. On n'en profite pas. Il y a des individus qui s'arrogent des carrés miniers et tout ça. Même si la guerre est terminée, je pense qu'il faut à ce moment ici tirer des leçons à travers la guerre, tirer des leçons pour être encore plus sérieux et que nos exploitations minières puissent profiter aux Congolais et toutes les populations. Dans l'anarchie, on a toujours ça. Si on questionne les gens qui sont dans le carré minier ailleurs, il fait penser aussi que c'est facile de s'enrichir dans l'anarchie. Parce que ces minéraux, finalement, ne profitent pas réellement aux Congolais. L'initiative est bonne et très louable, et je crois qu'il faut la faire dans la durée, et que tous les Congolais puissent s'impliquer, en plus de stopper les velléités du Rwanda, mais que ça soit encore plus utile pour tous les Congolais, parce que nous sommes un scandale géologique, et en même temps les pays les plus pauvres. Et que donc, et même moins armés. Donc, même le peu qui nous reste, ce n'est pas ce qu'il y a au Kivu qui pouvait acheter des armes qui fait qu'on puisse nous défaire. Il y a le cobalt, il y a le katanga qui est là, il y a l'or qui est dans la province orientale, il y a ailleurs. Et que donc, si les ressources étaient bien gérées, on ne pouvait pas être ridiculisé dans des guerres avec des petits pays comme nous.
Merci, Guy Kajemba. Franck Fomba, à votre conclusion. Franck Fomba, est-ce que vous êtes en ligne?
Je rejoins ce que mes confrères ont dit. Faisons pression sur l'extérieur, c'est bon, mais travaillons beaucoup plus en interne. Vous savez, chez nous, il y a un adage qui dit que le ver qui ronge le fruit, il le ronge de l'intérieur. Si nous mettons de l'ordre à l'intérieur, dans notre secteur minier, si nous comprenons tous, et surtout ceux qui sont de l'administration publique et qui sont chargés de mandats publics, si nous comprenons que les ressources naturelles doivent servir au développement, le pays sera développé et beaucoup de problèmes seront résolus.
Merci.
Mais on ne connaîtra pas tout ce qu'on est en train de connaître. Donc mettons du sérieux, mettons surtout fin à l'impunité.
Merci Franck Fomba, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Freddy Bikumbi qui ont réalisé ce magazine. La mise en onde était assurée par Billy Bessou. Derrière les caméras, Jonathan Folani, Hervé Vauquin et Clément Chimanga. Merci également à Bertin Kassiama qui a participé à la production de ce magazine. Présentation et coordination, Kéline Couté. Restez branchés sur la fréquence de la paix.